Je disais que la fête des mères, c'est aussi une fête pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu. Et ce matin, je vais juste peut-être prendre une petite exhortation et peut-être exploiter cette dimension que la fête des mères, c'est aussi la fête de l'Église et la fête dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais partager ce matin le texte sur Tite, chapitre 2, le verset 3 à 5. Nous allons le lire et puis nous allons prier. C'est l'apôtre Paul qui dit à son disciple et enfant spirituel qui est Tite, il dit à Tite, chapitre 2, verset 3 à 5, « Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole ne soit pas blasphémée. » Prions. Tendre Père, nous sommes devant toi, pleins de reconnaissance pour les mères que tu nous as données, pleins de reconnaissance pour l'œuvre de la procréation. Seigneur, tu t'es pas contenté juste de créer l'homme. Tu as créé l'homme et la femme et tu as dit, reproduisez-vous, multipliez, soyez féconds, soyez nombreux. C'est toi, Seigneur, qui es au cœur même de la maternité. C'est toi qui fais que l'honneur qui revient aux mères, c'est de pouvoir participer à l'œuvre de la création, de prolonger ce que toi tu as commencé. Honneur et gloire à toi pour toutes les mères, tant bien celles qui ont pu être des mamans que celles qui sont femmes. Honneur et gloire à toi. Seigneur, nous voulons que ce matin, ensemble, nous puissions encore nous encourager, les mamans et nous aussi, à travers ta parole. Conduis-nous dans cette parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est l'épître de Paul à son disciple Tite, et Tite se trouve en Crète. Donc, l'évangile est arrivé jusqu'en Crète. Vous savez où c'est la Crète? Normalement, oui, hein, parce que c'est une grande destination des vacances. Hein. Beaucoup de gens vont en Crète, il paraît. Hein. Crète, Chypre, hein, des trucs comme ça. Les gens aiment bien aller par là parce que il paraît que c'est moins cher, et puis c'est bien chaud, et puis voilà. Et puis c'est toute une mentalité un peu particulière. Et toute une histoire avec la Crète. Donc, quelqu'un ne sait pas où se trouve la Crète? Levez la main. Ah, tout le monde sait où se trouve la Crète. Toi, tu sais pas. La Crète se trouve du côté de la Grèce. C'est la plus grande île de la Grèce. Tu vois où c'est la Grèce? Tout va bien. Tout va bien alors. Tu imagines la Méditerranée, la mer Méditerranée, et tu imagines la Grèce par là, et tu imagines, tu vois, tout ça. Voilà. C'est pas la Turquie, hein, mais voilà. Un peu plus au sud, une a dit quand elle a voyagé par là. Alors, en fait, comment on sait, comment sont arrivés ces gens, ces chrétiens en Crète? On sait que lorsqu'il y a eu la dispersion du peuple d'Israël à cause de l'invasion notamment romaine, il y a eu une communauté de juifs qui est allée s'installer en Crète. Et là-bas, on ne sait pas à quelle époque précise, mais nous trouvons une trace qu'il y a eu des gens, des juifs qui étaient installés là-bas. Nous avons une trace de ça à travers notamment le texte de Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte. Lors de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Il y a là le Saint-Esprit qui descend et les gens se mettent à parler en langue. Et les juifs qui étaient venus d'un peu partout dans le monde connu de l'époque, eh bien, il y en a quelques-uns qui ont dit, mais ces gens qui parlent en langue, mais on entend qu'ils parlent le crétois. C'était les Juifs qui venaient de la Crète en pèlerinage à Jérusalem. C'est ainsi qu'on sait qu'il y avait des Juifs qui étaient installés en Crète, mais qui venaient. à Jérusalem et qui était installé là. Malheureusement, d'après l'apôtre Paul, l'influence des Crétois sur ces Juifs était une influence négative. Nous allons voir ça à travers ce texte. Tite chapitre 1, et nous allons voir les versets 10 à 16. Tu as ça dans ta liste? Oui, ouais. Alors, écoutez, suivez. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est les Juifs qui se disent chrétiens, mais qui imposent encore les lois de du judaïsme, notamment la circoncision. Ok? Donc, nous y sommes. Alors, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent, ils perturbent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc, ils enseignent des hérésies, des bêtises, pour de l'argent ou pour un intérêt matériel. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseuse. » Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est plus pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'être d'aucune bonne œuvre. Ça, c'est une des caractéristiques qui peut montrer en quoi est-ce que si quelqu'un dit que je suis chrétien, il dit « Moi, je crois en Dieu. » C'est facile à savoir la suite. Parce qu'il faut voir ce qu'il fait. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui tient des propos blasphématoires, on sait très bien que c'est juste qu'il croit des paroles, mais c'est pas de fond du cœur. Les Crétois, donc, c'est un peuple qui est vraiment caractérisé par cette espèce de rébellion à l'égard de Dieu, cette opposition à Dieu, et ils l'ont transmis quelque part aux croyants judaïques et chrétiens judaïsants de cette époque-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va écrire à Tite pour dire dans cette masse de chrétiens, de ces gens qui viennent, bien sûr, des juifs convertis à la foi chrétienne, dans cette masse-là, il faut que tu fasses le tri. Il faut que tu sois dur pour que ceux qui sont véritablement à la recherche d'une vie chrétienne normale puissent s'engager et puissent comprendre, connaître quel est le bon chemin. Et les autres, au moins ils sauront qu'ils ne sont pas sur le bon chemin parce que ça sera dit clairement. Et cette exhortation, bien sûr, est importante parce que elle va toucher aux différents domaines, aux différents groupes auxquels Paul veut toucher à travers Tite. Et le chapitre 2, nous n'avons pas lu le commencement, les deux premiers versets, c'est Paul qui dit à Tite d'abord de s'adresser aux personnes âgées, aux vieillards, et puis là maintenant, au chapitre toujours 2, le verset 3, maintenant il s'adresse aux femmes âgées. Alors, ce matin, nous allons donc regarder ce que Dieu veut à travers ce texte pour les mamans âgées d'un certain âge. Pas nécessairement les vieillards, pas nécessairement celles qui sont complètement KO, mais celles qui ont un certain âge, l'âge de la maturité. Celles qui ont un mot à dire vis-à-vis des plus jeunes. Et je pense qu'ici, à l'exception de l'une ou l'autre que je vois, les autres ont un certain âge ou un âge certain et peuvent très bien exhorter les plus jeunes. Quoique ça ne veut rien dire tout ça, parce que tu peux avoir une jeune de 40 ans qui est déjà mariée depuis 20 ans. Mais on lui dira qu'elle est peut-être jeune, mais elle a déjà quand même de la bouteille, hein, n'est-ce pas? Que dit le texte? Que dit le texte à propos de cette exhortation? Nous reviendrons sur cette question parce que c'est super important de bien le comprendre. Pourquoi Paul s'adresse plutôt aux dames âgées au lieu de s'adresser à toutes les dames? Parce qu'ailleurs, dans d'autres textes, il s'adresse à toutes les dames. Ici, il s'adresse qu'aux dames âgées. Ça, on reviendra sur cette question à la fin. Qu'est-ce qu'on voit? Tu peux me mettre le texte, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on voit? Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Qu'est-ce que nous voyons? Le texte présente les dames âgées comme étant des dames qui doivent se comporter comme cela convient à la sainteté. Et dans d'autres versions, il est carrément traduit comme des servantes de Dieu, des personnes qui servent le Seigneur. Et moi, j'aimerais beaucoup retenir ça. Quel est le statut sur le plan de l'Église, sur le plan spirituel, sur le plan de l'œuvre de Dieu? Quel est le statut d'une femme mûre, d'une femme d'un certain âge? Elle est servante de l'Éternel. Elle est servante de Dieu. Ça, c'est la première marque. Appelée à la sainteté, c'est-à-dire à vivre une vie de séparation par rapport au péché, par rapport à tout ce qui n'honore pas Dieu. Sainteté, l'idée aussi de la consécration, mise à part pour Dieu, avec la priorité de d'abord servir Dieu dans tous les domaines de sa vie. Je ne vais pas répéter ici ce que la être serviteur. Vous savez que dans la notion du serviteur, j'ai toujours insisté beaucoup sur ce rapport à l'esclavage. Un serviteur, c'est un esclave. Et pourquoi j'aime dire l'esclavage? Parce qu'un esclave n'a pas quelque chose à faire valoir de lui-même. Il n'y a rien, il n'a pas de droit à un esclave. Un esclave dépend de son maître, c'est l'instrument de son maître. Son maître lui dit « à genoux », il se met à genoux. Et son maître lui dit « debout », il se met debout. « Couche-toi », il se couche, etc. C'est l'esclave, il appartient totalement à son maître. Mes sœurs, Dieu vous appelle à être ses servantes. C'est-à-dire ses instruments, les personnes consacrées à lui, les personnes qui lui donnent d'abord à lui la priorité dans tout ce que vous faites, dans tous les choix de votre vie. L'autre question doit toujours être, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quand je dois parler, quand je dois répondre à mon mari, quand je dois éduquer mes enfants, quand je dois décider pour la maison, quand je dois décider pour moi-même, quand je dois gérer mes relations avec les gens autour de moi, qu'est-ce que Dieu veut? Quel est l'acte, la décision que je peux prendre qui manifeste à travers moi que Dieu est ma priorité, celui qui est à la première place? C'est pour lui que je fais. C'est une exigence de consécration. Et cette exigence de consécration entraîne que dans le choix de ma vie, ma priorité dans tout ce que je fais, c'est de donner la gloire à Dieu et à rien d'autre. Et c'est clair que j'ai l'habitude, Aurélie le sait, j'ai l'habitude de prendre en charge, nous avons l'habitude, lui et moi. Il faut que j'ai l'habitude à dire ça quand même, franchement. Nous avons l'habitude, lui et moi, de prendre en charge les jeunes qui se préparent pour le mariage, surtout dans notre église, et nous leur donnons des enseignements pour les préparer au mariage. Et ce sont des principes pour lesquels, les principes sur lesquels nous insistons, en leur disant, tu ne fais pas d'abord quelque chose pour ton conjoint. Tu le fais d'abord pour Dieu. Les règles bibliques du mariage ne s'appliquent pas parce que simplement j'ai envie que ça se passe bien avec mon conjoint. Non, ça s'applique parce que je veux donner la gloire à Dieu d'abord. Et la gloire que je donne à Dieu me revient sous la forme de bénédiction qui fait que ma vie est heureuse. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Servante de Dieu, votre premier rôle est de mettre Dieu dans tout ce que vous faites et d'être encouragé par sa présence et son rôle. Servez le Seigneur. Deuxième chose qu'on remarque. Quelle est la tâche principale qui est proposée, qui est donnée ici aux femmes? Verset 3, enfin 4 plutôt. Quel est déjà à la fin du verset 4, de 3, pardon, quel est le rôle de la femme? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit instruire, donner des bonnes instructions, enseigner. Enseigner qui? Les femmes plus jeunes. Enseigner quoi? Quatre choses. Première chose, à aimer le mari. Deuxième chose, à se montrer réfléchi et pur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit ici dans le texte ici. C'est écrit à être retenu et chaste. En fait, troisième chose, à être pleine de bonté. Dernière chose, à être soumise à leur mari. Ça, c'est une chose importante à laquelle nous pouvons penser. Dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, l'attente de Dieu pour les mamans, en tant que servantes de Dieu, c'est qu'elles prennent en charge les plus jeunes, qu'elles fassent le travail de mentoring. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un concept qui se développe de plus en plus, le mentoring. Et dans le monde chrétien, particulièrement le monde évangélique américain, de plus en plus on parle du mentoring. Le mentoring, c'est quelque chose que nous avons, chrétiens, découvert depuis très très longtemps et que nous appelons, nous, le discipolat. C'est faire des disciples. C'est Jésus qui l'a ordonné depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Le mentoring, c'est ça. C'est l'encadrement qui consiste à faire de quelqu'un une personne mûre, adulte, capable d'assumer à son tour des grandes responsabilités comme nous avons la grâce de faire. Ici, les dames, donc, sont appelées à aider les plus jeunes dans les quatre domaines importants que je viens de citer. D'abord, les relationnels familiales. Aider une plus jeune dame à bien prendre soin de sa famille, à bien comprendre les enjeux qu'il y a dans la famille, la place du mari, la place des enfants, comment on s'occupe et du mari et des enfants, et comment on le fait dans le Seigneur. Et puis, deuxième domaine, c'est tout ce qui concerne le domaine spirituel, à être retenu et chaste, ou dans d'autres textes, à être réfléchi et pur, c'est-à-dire à être sage et consacré à Dieu. On ne se rend pas compte à quel point apprendre aux gens la crainte de Dieu, apprendre aux gens de puiser la sagesse dans le Seigneur. J'ai beaucoup aimé la prière d'Ivna qui a dit « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Je pense que s'il y a une chose importante, c'est avoir la sagesse. Parce que la sagesse, c'est pas des mathématiques. C'est pas 1 plus 1 égale 2, la sagesse. La sagesse, c'est pas une science exacte. La sagesse, c'est un art. C'est une façon à la fois de sentir une chose, de voir dans quelle direction je peux orienter une chose, tout en se basant sur des réalités rationnelles. Je peux avoir mon enfant en face de moi qui fait une grosse bêtise, une fois, selon la sagesse qui m'est guidée, qui m'est octroyée, enfin, que le Seigneur me donne, je peux une fois l'engueuler. Mais tout de suite. Mais une autre fois, je peux laisser ça. Je fais une bêtise, je dis rien. Je laisse passer. Et j'attends peut-être une circonstance. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux moments-là? Quelqu'un qui va m'observer objectivement va dire, mais Gaston, là, il a fait une bêtise, tu ne lui as pas crié dessus. Et puis là, il fait une bêtise, tu lui cries dessus. C'est contradictoire, alors c'est quoi ton affaire? Mais c'est la sagesse. Parce que on porte quelque chose qui relève à la fois de l'intuition, à la fois de comment on peut appeler ça, de la conduite du Saint-Esprit, à la fois de l'expérience, de la connaissance, à la fois du discernement. Vous comprenez? Et la sagesse, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut demander à Dieu. Et seul Dieu donne la sagesse. Personne d'autre. Parce que la seule sagesse qui vaut la peine, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Jacques chapitre 3. Deux sortes de sagesse. La sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Que dit le texte? La sagesse d'en bas, elle est comment? Elle est terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque. La sagesse qui vient d'en haut, de Dieu, elle est conciliante, elle est pure, elle est pacifique, elle est pleine de bonté, etc., etc., et produit du fruit de la justice, c'est-à-dire des choses qui sont justes aux yeux de Dieu. Les mamans, les grandes mamans, vous avez du boulot à l'égard des petites mamans. Le relationnel familial, le spirituel, mais aussi le social. Être bonne, la bonté. Vous savez, la bonté, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est. Comment on dit ça? Quand on est trop bon, on dit quoi? On dit un truc comme trop bon, il ne faut pas exagérer d'être trop bon parce que ça exagère. Hein? C'est trop bon, trop couillon, c'est ça? Non, je sais pas. Pardon. Je sais pas si c'est bon. Excusez-moi. Pardonnez-moi si c'est pas vraiment la bonne expression. Comment vous dites?
Bon et bête.
Ah, bon. Voilà, bon et bête. La bonté, ce n'est pas de la faiblesse. La bonté est une mesure qui vient du cœur de Dieu. Ce n'est pas l'art de faire tout ce que les gens me demandent de faire. Ce n'est pas l'art de donner tout ce qu'on me demande de donner. Ce n'est pas l'art d'être baba cool en disant ouais, les gars, tu veux quoi dormir dans ma maison 4 jours? Oui. Tu veux quoi manger mon pain? Oui. Tu veux quoi? Non, ce n'est pas ça la bonté. La bonté est une mesure dans la façon dont j'agis qui relève du fruit de l'Esprit, de ma vie avec le Saint-Esprit. Les gens vont le voir. Un homme bon, les gens le voient. Et les gens le disent. Cet homme-là, cette femme-là, il est bon. Cette femme est bonne. Cet homme est bon. On le voit. Comment on le voit? À travers la façon dont la personne se comporte. Mais quelqu'un qui veut se faire montrer qu'il est bon, un jour la vie le mettra à l'épreuve pour montrer qu'en fait il n'est pas si bon que ça. Croyez-moi ça. Avant ma conversion, j'essayais d'être un homme bien. Et croyez-moi, c'est la période de ma vie où j'ai été le plus méchant avec les gens. On ne peut pas imiter ces choses-là. Soit par la grâce de Dieu, on le vit avec l'aide de Dieu, soit on ne l'est pas. Apprendre à vivre des bonnes relations sociales. Les mamans doivent apprendre aux jeunes mamans à vivre des bonnes relations sociales avec les gens. La belle famille, pas toujours évident, hein? La belle-mère, surtout la belle-mère. Hein? Il paraît que les beaux-pères sont toujours les mères. Il paraît que c'est toujours les belles-mères. C'est ce qu'on dit, hein. Moi, j'ai rien dit, hein. Ok, c'est ce qu'on dit, c'est pas moi. Apprendre à la dame plus jeune à bien vivre sa relation au niveau de la belle famille, au niveau de son quartier, de ses relations professionnelles, etc. Elles sont là pour cela. Apprendre à la jeune maman à être soumise à son mari. Pourquoi croyez-vous que Paul insiste sur toutes ces choses-là dans le contexte de ce livre de Tite? Pourquoi? Nous l'avons lu au verset 1, chapitre 1. Il a dit parce que ces gens, les judaïsants là, étaient en train de perturber la famille. On l'a lu, hein? Ils perturbaient la vie de la famille. Ils étaient en train de foutre le désordre dans les familles. Et c'est pour ça qu'il fallait corriger cela en enseignant les choses qui sont bonnes. Pas ce qui est mal, mais ce qui est bien. Il est dommage aujourd'hui, mes amis, mes frères, mes sœurs, il est dommage qu'aujourd'hui, avec l'individualisme, avec le jugement que nous aimons toujours émettre sur les autres, n'est-ce pas? Il est dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas cette dynamique-là. Vous avez été, je ne parle pas avec les jeunes mamans parce que les jeunes mamans vont me dire oui et les mamans, les grandes vont se fâcher. Non, vous les grandes mamans, avez-vous bénéficié d'un mentoring, d'un encadrement d'une maman plus âgée? C'est un phénomène rare dans l'Église. C'est rare dans l'Église qu'une dame âgée s'intéresse à une plus jeune, essaye de conquérir son amitié, conquérir sa proximité, et petit à petit, commencer à la conseiller. C'est rare. N'est-ce pas, Niri? N'est-ce pas, Elisabeth? C'est rare. Oui, hein? N'est-ce pas, Gisèle? C'est rare. N'est-ce pas? Bon, ça, c'est marié à aux jeunes. Les autres, bon, sur notre public, c'est les jeunes. C'est les jeunes, quand même, dans le Seigneur. Voilà. C'est rare. C'est un phénomène. Ah, oh, pardon, Aurélie! N'est-ce pas, Aurélie? Tu n'es pas là, tu n'es pas avec moi. Reviens sur terre.
Je n'étais pas encore maman.
Et alors? Ben, elle est mariée. Elle est déjà mariée, donc potentiellement, nous pensons qu'elle va être maman. Sauf si elle ne le veut pas. Mais je ne crois pas que chaque... Enfin, bon, bref. On va pas discuter de cas d'Aurélie. Aurélie, on va te chaîner pour rien. On ne parle pas d'Aurélie, ça va? Laissons Aurélie tranquille, s'il vous plaît. Voilà. C'est un phénomène rare. Et peut-être, à travers ce message, je voudrais vous encourager, mes sœurs. Je voudrais vous encourager, mes sœurs, plus âgées, à vous approcher des plus jeunes. À en faire vos amis. À en faire vos confidentes, et à leur parler, et à leur montrer le chemin, à les aider à aimer leur mari, et à les inviter qu'elles aussi, lorsqu'elles seront aussi avancées dans l'expérience, qu'elles aussi s'occupent des plus jeunes. Mes amis, si nous faisons ça, nous créons une chaîne de vie, une chaîne qui va permettre une vie de qualité dans nos familles, et un épanouissement réel chez les femmes. J'ai lu dans la Bible, ça m'a fait plaisir, dans les commentaires, les études que des gens ont fait sur ce qui est dans la Bible, j'ai lu avec plaisir que le christianisme a permis l'émancipation de la femme. Ça vous étonne, hein? Eh ben, c'est la vérité. Je parle pas d'autres religions, je parle du christianisme. Le christianisme a permis l'émancipation de la femme. Mais je pense que sous le plan spirituel, on peut encore pousser plus si les femmes pouvaient créer une telle solidarité entre elles pour s'encourager les unes les autres à être un peu plus, un peu mieux avec le Seigneur dans les voies que le Seigneur veut. Ce serait quelque chose de puissant. Et je pense que ça, c'est une portée importante de ce texte. Quel est le but de l'enseignement que les mamans les plus grandes doivent donner, verset 5, le but de tout ça, c'est pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Mes amis, lorsque une femme, une maman ne se comporte pas comme le Seigneur le demande, elle agit comme si elle blasphémait la parole de Dieu. Elle agit comme si elle contredisait la parole de Dieu. Et dans le contexte de Tite, je reviens encore à ce contexte, c'était important pour le témoignage. Peut-être, juste pour terminer, il y a sûrement deux dangers qui guettent les femmes, les mamans, deux dangers. Et ici, elles sont données, elles sont au verset 3, elles doivent être ni médisantes, ni à donner aux excès de vin. La médisance et les excès d'alcool. C'était sûrement et certainement la réalité de cette église là-bas en Crète. C'était ça leur réalité. C'était ça leur problème. Mais peut-être, c'est ça. On peut réfléchir pour nous, particulièrement aussi. Je pense d'abord à la médisance. Calvin, Jean Calvin, vous connaissez? C'est pas moi, hein? Vous voyez, moi, c'est pas Jean Calvin, ok? Donc, ce que je veux dire de lui, ne soyez pas fâchés contre moi, d'accord? Bon. Jean Calvin disait, le bavardage est une maladie des femmes. Et il s'accroît avec l'âge. C'est pour ça que je vous ai préparé. Je dis, je préfère que vous sachiez que c'est pas moi. C'est Calvin qui le dit. Le bavardage est une maladie des femmes et il s'accroît avec l'âge. C'est vrai. Parfois, force est de constater que cette façon de voir les choses est quand même vraie. Vous voyez, j'ai mis trop de nuances, hein. Parce qu'en tant que pasteur, je dois quand même ménager tout le monde. Hein? Donc, j'ai fait en sorte que vous... Mais vous comprenez quand même que c'est vrai. Voilà, voilà. On peut tourner en rond, mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. Nous, en Afrique, il y a une expression qui dit qu'une femme ne peut pas construire un pays. Vous savez pourquoi? Le téléphone. Dès qu'elle sait quelque chose, elle dit à sa copine, chut, ne dis rien. Et l'autre téléphone à l'autre, il dit, chut, ne dis rien. Et puis l'autre, chut, ne dis rien. Et puis ça commence à aller dans tous les sens. Et puis voilà, enfin bref. Allez, on va pas s'attarder là-dessus. Juste attirer cette attention pour que, vous savez, ce n'est pas pour dire que les hommes sont meilleurs que les femmes. Il y a des hommes médisants. Et à fond. Il y en a même qui en sont malades. Moi, j'en connais un, en tout cas dans ma vie, j'ai connu un que j'ai dû mettre à la porte parce que c'était pas possible. Il n'était pas capable de se taire, il devait toujours dire quelque chose de mal de quelqu'un d'autre. Alors, c'est une chose à laquelle les dames doivent veiller. Ici, dans ce texte, il n'est pas seulement dit une question de commérage. Vous savez, le fait de rapporter les choses, il ne s'agit pas que de ça. C'est ici quelque chose de beaucoup plus dangereux encore. C'est cette forme de médisance où je véhicule des faux enseignements. Je ne vérifie pas ce qui m'est enseigné. On dit que l'apôtre, un exemple, hein, on enseigne que l'apôtre Paul était une femme. Mais moi, je vérifie même pas. Tu sais quoi? L'apôtre Paul était une femme. Et puis, ça circule. Et c'est quelque chose de complètement faux. Les dames, veillez à ce que vous dites, à comment vous parlez, aux choses que vous vous dites ensemble entre vous. Veillez à ce que vos bavardages, puisqu'une femme, elle parle, j'en ai une, elle parle, veillez à ce que vos bavardages soient limités à quelque chose qui reste dans le cadre de ce qui est dit. Et lorsque ça vous démange de trop parler, vous parlez avec Dieu. Seigneur, je vais te parler. Et tu lui racontes tout ce que tu veux. Parce qu'après tout, le Seigneur va te dire, il n'y a que deux solutions. Le Seigneur va t'écouter et il va te dire, tais-toi un peu, ça suffit maintenant. Non, peut-être qu'il est assez patient pour dire, ça va, je t'écoute jusqu'au bout, parle ma fille, je t'entends. Certainement donc, apprendre à recadrer nos bavardages, peut-être les confier à Dieu, et sûrement et certainement, une des choses qui m'a aidé à ne pas être trop bavard pour perdre mon temps à bavarder sur les gens, c'était le fait de soumettre tout ce que je dis à la prière. Vous savez, quand vous avez parlé de quelque chose et qu'après vous avez prié, je vous assure, si vous avez dit des bêtises, devant Dieu, vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi, je crois que j'ai dit des bêtises. Et la deuxième fois, je crois que vous vous souviendrez quand fois qu'on reprie, ok, ça va, Seigneur. J'arrête de dire des bêtises parce que je vais encore devoir te dire, pardon, Seigneur, j'ai dit des bêtises. Vous voyez? Et peut-être ça, ça peut aider à éviter de tomber dans ce piège. Deuxième chose, il est question du vin. Et peut-être ça, je ne sais pas si c'est une maladie dans notre société typique des femmes, puisque, après tout, les statistiques dans notre société démontrent que l'alcoolisme est plus un problème des hommes que des femmes. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'alcoolisme des femmes, puisque je n'ai pas d'éléments qui puissent me dire que c'est plus que ça. Mais, voilà, à travers ces deux dangers, peut-être réfléchir en tant que femme à tout ce qui peut être un danger et qui peut être, avec l'aide de Dieu, éliminé de sa vie. Dieu vous veut sainte. C'est-à-dire mis à part pour lui, comme un instrument, comme un outil de grande valeur, que l'on peut utiliser à tout moment. Vous savez, hein, quand vous rentrez chez vous à la maison, vous avez parfois des outils pour travailler, pour couper de la viande, pour, je ne sais pas, moi j'ai par exemple des couteaux chez moi à la maison, des couteaux à viande, mais je les aime bien ces couteaux-là. Je suis embêté si je dois manger ma viande sans ce couteau-là, parce que c'est ce couteau, il est fait pour manger avec les viandes, vous comprenez? Et Dieu veut que nous soyons ces instruments-là, ces outils appropriés, qu'il peut utiliser quand il veut. Ça veut dire que nous devons nous mettre à part pour lui, ça veut dire qu'on doit se sacrifier pour que, dans notre façon d'être, Dieu soit toujours à la première place, prêt à nous prendre en service quand il veut. Ça, c'est le grand défi. Et devenir cela me donne l'opportunité, ça me donne le pouvoir de pouvoir prendre en charge les autres. Si je suis un modèle, la plus jeune m'acceptera facilement. Si je ne suis pas un modèle, il y aura un problème. Parce qu'elle va dire, qu'est-ce que tu viens m'enseigner, toi? Hein? Tu veux me dire que tu soumettras à son mari et toi, tu l'insultes du matin au soir? Hein? Tu dis qu'il est nu et qu'il est nu et puis tu dis que tu viens m'enseigner que soumettre à ton... Et c'est quoi ça? Voyez, nous d'abord, les plus grands, on est des modèles et on parle alors aux plus jeunes. C'est une exigence de sainteté. Je termine. Ce texte invite les mamans plus âgées à se doter d'une tâche importante, qui est celle d'encadrer les plus jeunes. C'est donc un texte qui nous invite à plus de solidarité entre les mamans, à créer véritablement un lien spirituel entre les mamans, les plus grandes, les plus âgées, les plus mûres, avec les plus jeunes. Ce texte nous invite à permettre que toutes grandissent spirituellement à travers le partage de l'expérience. Ce texte invite à une vie sainte et consacrée à Dieu en le mettant à la priorité. Bref, ce texte nous invite à être des mamans selon le Seigneur. Bonne fête à toutes les mères. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, que ta parole ne reste pas une lettre morte, mais qu'elle prenne vie, qu'elle nous impacte, qu'elle fasse corps avec nous. Qu'elle pénètre nos désirs, qu'elle mobilise notre volonté de changer et de remettre les choses en ordre, de corriger ce qui n'est pas bien, afin d'être ces femmes, ces mamans que toi tu veux. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.